c'est vrai qu'il y a des gens qui sont entrés par cette porte parce qu'ils ont vu que c'était ouvert et parce qu'on est tellement bien situé. Et on aurait plusieurs exemples à donner où des gens ont été bénis en venant ici. Et c'est notre mission peut-être à notre église. Il y a une semaine exactement, le 28 février, donc là, le l'Ayatollah Khamenei, le guide suprême d'Iran, a été éliminé par des forces américaines. Cet homme avait la particularité d'être de manière obsessionnelle, donc anti-Israël. Mais il ne disait jamais Israël, il parlait de l'entité sioniste et il en parlait en disant que c'est une tumeur cancéreuse. Et voilà. Le jour suivant, c'était la fête de Pourim en Israël. Mais même si c'était en Israël, ça concerne le livre de Ruth, Esther, dans la Bible. Et c'est une commémoration. Et le jour suivant, justement, en Israël, ils ont commémoré cela, mais souvent dans les abris, souvent dans les garages souterrains. Et c'est une fête qui est plutôt joyeuse. Et juste pour rappeler les événements, il y a 2500 ans, en Perse, mais c'était l'Iran à l'époque, hein, il y avait un homme qui s'appelait Hamas et qui avait œuvré pour la destruction des Juifs qui habitaient en Perse. Hein. Et il avait reçu tous les pouvoirs, il avait tiré au sort, et puis pour trouver la date, et la date idéale, c'était ben, justement, j'allais dire la semaine passée, mais il y a 2500 ans, et ça s'appelle les Pourim, pour tirer au sort, d'où vient le nom. Et voilà que par un concours de circonstances, cet homme qui avait prévu de détruire, d'éliminer les Juifs, par un concours de circonstances miraculeuses, que je ne vais pas raconter ici, mais le roi Assuérus, qui était le roi le plus puissant du monde à cette époque-là, roi de Perse, a tout d'un coup piqué la mouche. Il est assez imprévisible, ce roi, si on regarde. Et là, il a piqué la mouche et il a éliminé ce Haman, qui a été pendu. Et puis Israël, donc les Juifs plutôt, ont pu préparer ce jour pour se défendre. Je vous lis juste ce texte qu'on trouve dans Esther 9. Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire au mois d'Adar, le jour où le messager du roi, qui avait valeur de loi, aurait dû entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut au tour des Juifs de dominer sur ceux qui le détestaient. Et en Israël, ils ne sont pas forcément croyants, hein, mais ils fêtent tous Pourim. Et là, il y a les réflexions qui sont venues en disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en faisant ce lien. Voilà. Ce matin, quand j'ai su que j'allais prendre la parole, j'avais imaginé que c'est Ruth qui allait venir devant et puis qui aurait lu un texte. Et Charette, elle s'est cassée le bras. Elle a eu bien mal il y a 15 jours. Hein. L'humérus, et urgence. Et puis mercredi passé, elle a été opérée. Ils lui ont mis une prothèse inverse parce que c'est un peu fragile tout ça. Voilà, alors l'opération a réussi, ça va bien. Mais elle a quand même mal, hein. Elle prend des médicaments et ce matin, c'est mon fils et ma belle-fille qui sont là. Donc, elle ne peut pas lire le texte que j'aurais voulu lui faire lire, mais je vais le lire à sa place. Hein. Je vais le lire. Alors, vous aurez été étonné que ce soit elle qui se lève et pas moi. Et puis, elle aurait lu ceci dans Deutéronome 17. Quand le roi montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne se lève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Puis ensuite, elle aurait pris le micro, puis elle aurait fait un micro-trottoir. Elle aurait dit, mais si vous, vous aviez maintenant ce texte, puis qu'on vous demandait de prêcher là-dessus, ce serait quoi votre message? Puis voilà, on aurait pu étendre, écouter. Bref, on ne sait pas ce que vous auriez dit, mais vous allez savoir ce que moi, j'en dis. Hein. Voilà. C'était des gens qui... Donc, c'est une histoire que je vous raconte. Hein, c'était des gens qui ont passé la nuit dans le désert, sous une tente. Et puis, le matin, ils se lèvent, encore un petit peu les yeux endormis. Ils regardent par terre. Et puis, ils voient un truc bizarre. Puis, ils disent « Mahou ! Mahou !» Donc, c'était, ils ne parlaient pas le français. Hein. « Mahou, c'est quoi ce truc hein ?» Et, c'était gélatineux comme ça, ils ramassent, ils sentent, ça sent pas mauvais. Oh, ils essayent, ils goûtent. Ah, mais c'est même bon, c'est sucré, c'est un peu comme du miel. Mais marou. En fait, ils n'étaient pas seuls dans le désert. Et puis, ça, de ça, il y a très, 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 très longtemps, c'était pas hier. Hein. Et ils n'étaient pas seuls, il y avait beaucoup de monde. En fait, c'était tout un peuple. Et. Peut-être que ça vous fait penser aux Hébreux qui étaient sortis du pays d'Égypte, qui avaient été libérés et qui étaient dans le désert et qui, un jour, voient ça et qui disent « Mahou, quoi ça ?» Ils disaient aussi, certainement, même si ce n'est pas tout à fait dans le texte, « Mazé », parce que c'est aussi la manière de dire « qu'est-ce que c'est ça ?»« Mazé ». Et puis, quand on répond, ben, on disait quelque chose. Donc, c'était de l'hébreu, puisque c'est des Hébreux, hein. Mais vous, vous savez ce que c'était? C'était quoi? La manne, bravo. Deuxième question, ça veut dire quoi, manne? Et t'es doué, toi, hein? Il n'a pas l'air, hein? Non, mais c'est bien. Manne, ça veut dire quoi? Non, on ne sait toujours pas ce que c'est. Mais manne vient de ma. C'est pour ça que j'ai dit ma. Alors, effectivement... Les Israélites se regardèrent les uns et les autres et dirent « Qu'est-ce que c'est ? Mahou ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit « Hou halerem ?»« Hou, ça, c'est du pain. »« C'est du pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Et puis après, c'est écrit « Voici ce que l'Éternel a ordonné, etc. » Mais quand on voit dans le texte hébreu, il y a un truc aussi qui est intéressant. C'est que je vous ai dit, on peut dire mahou et mazé. Si vous êtes en Israël sur un marché, vous ne savez pas ce que c'est, hein, vous dites mazé. Ils vont dire, oh, ils parlent bien l'hébreu, hein, mazé. Puis on vous dira zé des tomates, c'est, par exemple. Effectivement, on répond, quand on dit mazé, ça commence par zé la réponse. Et puis voilà que ici, dans ce verset, ça commence par zé aussi. C'est pour ça que ça attire l'attention. Voici ce que l'Éternel ordonne. Là, c'est zé. Hadabar, c'est la parole. C'est la parole, et là, ça fait tilt. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est le pain avec les vitamines, les fibres, enfin tout ce qu'il faut pour nous fortifier. C'est idéal, mais c'est aussi la parole. Alors bon, on pourrait dire, ah, il y a de l'imagination là. Hein. Et puis si on prend un peu plus loin, dans le Deutéronome, on trouve cette explication. C'est dit que, l'Éternel t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Et ce texte qui est là, qui est dans le Deutéronome, a été repris par Jésus quand il était dans le désert et qu'il a répondu, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Et avant, je l'ai dit en hébreu, hein, ha dabar, dabar, ou davar, ça dépend comment on prononce, c'est la parole. Et puis, il y a un mot qui ressemble, parce qu'en hébreu, ce qui fait la force, c'est ce qu'on appelle les racines, c'est En général, il y a toujours trois consonnes fondamentales. Et puis, tous les mots qui ont ces mêmes racines, ils ont un lien entre eux. Pas forcément synonyme, mais quelque chose qui exprime une idée. Et puis là, ce dabar, il y a un autre mot qui s'appelle midbar. Et puis quand il y a ce M devant, c'est un peu l'idée de dire que c'est un lieu, c'est une construction, midbar. Et midbar, je vous donne la traduction, c'est le désert. Midbar, c'est le désert. Alors, on pourrait dire, oui, en français, le désert, c'est un lieu aride, il n'y a rien. C'est... Et puis dans l'idée, c'est toujours le même lieu, midbar, mais il y a un lien avec la parole. Mais il n'y a pas d'explication, hein, vous ne pouvez pas prendre des bouquins pour savoir ce que c'est. On réfléchit quand on voit ça, puis on se dit, mais quel est le lien entre Midbar et Dabar? Mais écoutez, c'est un lieu qui est propice à la parole. Effectivement, au lieu de voir le négatif, on peut aussi voir le positif. Parce qu'en étant là, ce peuple qui venait de sortir d'Égypte, eh bien, ils ont vécu 40 ans, c'était long, dans ce désert, mais c'était 40 ans de parole où Dieu a parlé. Et c'est pour ça qu'on peut voir ce lien avec ce Midbar. Et cette parole, elle a été aussi mise par écrit. Alors, c'est le début de notre Bible, hein, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est là que la parole a été mise par écrit, qu'elle a été entendue. Et je me suis demandé, mais quelle a été la première parole qui a été écrite? Et qui c'est qui l'a écrit? Bon. On va dire, c'est Moïse, certainement, qui a écrit. Puis la première parole, Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est possible, hein? De toute façon, il y a eu 40 ans pour l'écrire. Est-ce qu'il l'a écrit la première année, deuxième année? À quel moment il a écrit? On ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est que 2 mois après qu'ils sont sortis de ce pays d'Égypte, il y a quelqu'un qui est monté sur une montagne, qui avait avec lui des tables de pierre, et il y a quelqu'un qui a écrit des paroles dessus, et c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, donc 2 mois après, a écrit ce qu'on appelle les 10 commandements. Mais là, la Bible ne parle pas des 10 commandements, elle parle des 10 paroles, c'est l'expression. Et d'ailleurs, le premier de ces commandements n'est pas un commandement, c'est une parole. « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et là, je me dis, mais peut-être, enfin, ce n'est pas important, mais c'est comme ça, ça nous parle. Mais c'est peut-être là, la première parole de la Bible qui a été écrite. Puis après, Moïse a repris, a recomposé tout ça. Mais chronologiquement, c'est peut-être ça. Et ce n'est pas anodin, parce qu'on voit dans cette parole le fondement de ça. Et on pourrait dire, c'est vrai que c'est le fondement. Dieu a libéré les Hébreux, les enfants d'Israël. Mais je crois que c'est plus que ça. Parce que tout ce que Israël a vécu, c'est pour l'humanité entière, en fait. Et nous sommes tous esclaves. Bon, on est esclaves de ce qui nous tient, du péché, mais aussi des maladies, aussi des difficultés. Et puis si nous, il y a notre souffrance, notre esclavage, il y a le monde qui souffre aussi. Il y a le monde qui souffre des injustices. Il y a des enfants qui souffrent sur cette terre et pendant des millénaires. Et le message de Dieu, c'est de dire « Je suis venu pour vous libérer ». Et si ça s'est passé pour Israël, il y a encore des choses qui doivent venir. Ce n'est pas encore fini. Et c'est le royaume de Dieu. Et c'est une immense espérance, et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment une parole fondamentale. D'ailleurs aussi, quand il dit « Je suis l'Éternel »,« Je suis », ça nous fait penser aussi, quel est le nom de ce Dieu « Je suis ». Et puis, en plus ici, en hébreu, quand on dit « je », on ne doit pas forcément le dire. Si on dit « je mange », on dit « mange », j'entends, on n'a pas besoin de dire le « je tue il ». Puis quand on veut un peu insister, on dit « ani », ça veut dire « je ». Mais là, c'est Anori, c'est encore plus fort. Dieu, il dit « moi ». C'est Dieu. Dans ce premier mot, il y a le nom de Dieu. Et c'est pour ça que ça parle. Bon, alors maintenant qu'on a ce fondement de la Bible, on voit que ça a été écrit, et vers Deutéronome, à la fin, c'est le texte maintenant que Ruth aurait dû lire. Et puis, maintenant, vous savez que si vous aviez la prédication, vous avez votre idée, qu'est-ce que vous diriez ? Je vais quand même le reprendre sous les yeux. Alors, donc on a dit, c'est moi qui ai perdu maintenant mon fil. Hein. Là, c'est le roi qui reçoit cet ordre. Hein. Alors le roi, attention, il n'y avait pas de roi, ce n'était pas prévu qu'il y ait un roi, mais Dieu a anticipé. Il a dit, attendez, peut-être qu'un jour vous aurez envie d'avoir un roi. Alors ce jour-là, ce roi, en montant sur le trône ou avant, il devra écrire pour lui dans un livre une copie de cette loi. Autrement dit, il recevrait l'ordre d'aller demander, parce qu'il n'y avait pas la librairie évangélique avec la Bible à 2,90 francs. Hein. Il y avait bien quelques écrits, quelques copies, mais c'était uniquement pour les prêtres. Et là, il y avait instruction que lui ait aussi sa copie. Mais il n'y a pas quelqu'un qui allait lui faire, c'était à lui d'aller la copier. Et quand on copie, je ne sais pas si vous savez, quand vous prenez des notes ou bien les étudiants, si on écrit, ça entre un peu mieux que si simplement on entend. Donc c'est pour ça qu'on prend des notes des fois. Et là, le roi, il avait ordre de faire une copie pour lui. Après, on pourrait dire, ah ben c'est bien, il fait cette copie, puis il va la mettre dans sa bibliothèque, là, ça fera surtout que c'est... À l'époque, c'était des rouleaux, ça faisait quand même bonne impression. Hein. Mais non, il devra l'avoir avec lui, pas seulement sur sa bibliothèque. Hein. Et il devait y lire, il devait la lire. C'est pas seulement pour la copier puis l'avoir, c'est pour la lire. Pour dire, ah bon, on lit, puis quand on a lu, ben on le repose. Ah non, 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 lire tous les jours de sa vie. Il s'en sort plus. Lire, 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 et encore lire. Hein. Alors, lire tous les jours. Bon, on dit, ben voilà, alors on lit. Ah, aujourd'hui, j'ai lu, parce qu'on pense à la Bible, à notre lecture. Hein, ben, j'ai lu la Bible, c'est bien. Non, 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 non. C'est pas juste lire pour lire. C'est afin d'apprendre à craindre son Dieu. Il y a un but dans tout ça, de ce maintien. Alors, bien sûr, craindre Dieu, c'est quoi? Pour certains, ils vont dire, savoir, on a peur de recevoir un coup de bâton. Mais c'est pas comme ça. On voit bien. Quand quelqu'un disait craindre Dieu, c'est craindre de lui déplaire. Parce qu'on sait qui il est, parce qu'on sait ce qu'il est pour nous. Et on craint de lui déplaire. Voilà. Et ensuite, il dit, puis c'est pas seulement ça, c'est aussi de respecter et mettre en pratique. Respecter. Alors, je vous dis tout de suite, moi, le mot respecter, j'aime pas tellement ça. Mais en hébreu, c'est shamar, qui veut dire garder. D'ailleurs, il y a des traductions qui disent garder. Et pourquoi j'aime mieux le mot garder ? Parce qu'on voit que Dieu, il garde Israël. On voit qu'il y a de l'affection. Et nous, on garde ses commandements. Mais c'est aussi de l'affection. Ce n'est pas juste respect. Alors voilà, petite nuance. À respecter et à mettre en pratique. Effectivement, on trouve toujours ça. C'est de vivre ces choses-là. Jésus l'a aussi dit, enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné. Et voilà, on a vraiment un encouragement pour lire la Bible. D'ailleurs, on a ce plan de lecture. Ceux qui l'ont fait l'année passée ont déjà lu le Nouveau Testament. Et puis maintenant, on y va avec les textes actuels de l'Ancien. Alors, voilà, à respecter, à mettre en pratique les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions. Les paroles de cette loi. Vous aimez le mot « loi », vous ? Certainement. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, en Suisse, on va voter, il y a 4 textes de loi. Enfin, il y a des initiatives et des textes de loi. Je suis sûr que vous avez lu le texte de ces lois, puis que ça, c'est intéressant. Hein, c'est sûr, hein, on pourrait... Voilà. Non, quand on dit loi, c'est un peu gnangnan. Article 1, article 2, bien sûr, les effets des lois, même qu'on est en train de voter, c'est intéressant, mais le texte, c'est pour les juristes. Il y a des gens qui sont juristes, qui aiment, mais c'est voilà. Et donc, ça vaut la peine, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais de le redire. Donc, en hébreu, c'est Torah. Alors, des fois, on entend Torah, pour dire, on en a marre, on parle français, on ne parle pas l'hébreu. Mais quand même, ça vaut la peine de s'arrêter un petit peu là-dessus. Et puis, c'est avec ça maintenant qu'on ira un petit peu vers la fin du message. Il y a un pasteur, il y a 5-6 ans, ou bien moins, enfin, à l'époque du Covid, c'est simple. Il prenait des cours d'hébreu avec un enseignant hébreu, mais lui est pasteur croyant en Jésus. Et puis, il a demandé à ce pasteur, à l'enseignant, « Explique-moi Torah ». Mais il ne l'a pas demandé seulement pour lui, mais pour son église aussi. Et puis, ça a été enregistré, ça a été fait par Zoom, et puis ça a été mis à disposition sur YouTube. Hein. Et puis moi, je n'ai pas tout regardé, parce qu'il a pris son temps, hein, il y a au moins 5 YouTube. Mais j'ai juste fait une copie d'écran, puis je ne sais pas si tu peux la passer. Alors voilà, j'ai fait cette copie d'écran, où on voit l'enseignant en haut et puis le pasteur Manhattan. Et puis, vous voyez, il est mis Torah. Et comment comprendre quelle est la signification? Et c'est ça, moi, que j'aime énormément en hébreu. Il n'y a pas besoin d'aller faire de l'université, rien du tout, c'est de comprendre le mécanisme. Et puis après, avec l'informatique, on arrive très facilement. Et vous voyez, au milieu, sous Torah, il y a 3 petits signes, hein. On veut pas, il n'y a pas besoin d'apprendre l'alphabet, mais je vous le dis quand même parce que c'est intéressant. Sur les deux extrémités, c'est ce qu'on appelle un yod, yota. Et parce que Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour annuler la Torah, parce que lui, il a dit Torah. Pas un seul trait de loi, mais suivant les traductions qu'on a anciennes, ça ne dit pas un yota. Et d'ailleurs, c'est une expression aujourd'hui, on dit pas un iota. Mais c'est ça, c'est ces petites virgules, en fait, cette apostrophe, ça c'est un iota. Et vous voyez, dans cette racine qui va faire la force de cette Torah, on lit de droite à gauche, mais si quelqu'un se trompe, il lit de gauche à droite, ça y change rien. C'est toujours la Torah. Et au milieu, c'est un R. D'ailleurs, si vous avez de l'imagination, puis que vous le retournez, c'est presque un R en français. C'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a un lien entre l'alphabet hébreu et l'alphabet que nous connaissons. Bref, voilà. Alors, avec cette racine, comme je vous disais, il y a différents mots qui ont cette racine. Et à ce moment-là, on fait un lien. Et Torah puise sa signification dans tout ce que vous voyez là. Il y en a 5. Et puis, cet enseignant, en toute simplicité, pas pour des gens qui savent l'hébreu, mais il leur explique le premier, enseigner, instruire. Torah, dans la racine, il y a l'enseignement. Et si on pense à la Bible aussi, c'est ça, parce qu'on parle de Torah. Parlons de la Bible. Hein. En lisant la Bible, ce qu'on fait maintenant, il y a un enseignement qui est donné. Ensuite, mais voilà, le 2.2, c'est guider, indiquer. Quand quelqu'un dit, c'est où le chemin pour aller à Rome ? Tous les chemins mènent à Rome. Puis quelqu'un va dire, tu vas là, dans cette direction. Donc, guider, indiquer. On trouve des textes, des versets dans la Bible où cette racine, elle est utilisée pour montrer, pour indiquer. 3, viser un objectif. Là, vous imaginez une cible et vous ciblez, tac ! La Bible, la Torah, c'est ça, elle vise. Il y a un texte qui dit qu'elle sépare aussi la moelle et les os. C'est très précis. Ça, c'est la Torah. Et puis, 4, arroser et pleuvoir. Ça, c'est plus étonnant. Je veux dire que... Mais on voit qu'il y a des versets bibliques où la pluie, ou bien... Oui, la pluie, tout simplement, qui est une bénédiction, il y a cette racine, toujours ces 3. Donc, la Bible, c'est une bénédiction. Elle rafraîchit, elle donne la vie. Et puis finalement, c'est fondé. Puis là, j'ai été un tout petit peu étonné parce que les autres, je comprenais bien. Je sais comment on les voit, mais je ne comprenais pas fondé. Alors, j'ai vite été à la 5e vidéo, un peu écouté, et j'ai vu le texte qu'il a indiqué comme base. Et c'est dans Job 38.6. C'est écrit en parlant de la création. Qui est-ce qui a posé la pierre angulaire ? La pierre angulaire. Poser, ce mot poser, c'est aussi cette racine. Alors bon, le traducteur, il traduit, il dit, poser, un autre, il va dire fonder ou j'en sais rien, mais il y a ça. Et quand on parle de pierre angulaire, c'est, alors clair pour tout le monde, c'est le Messie. Et le Messie, c'est Jésus. Et donc, dans cette Torah, c'est comme quelque chose qui est posé et Jésus est au centre, en fait, de tout ça. Il y a encore un autre élément que j'avais vu de cet enseignant qui disait, pas là, mais je le mentionne quand même, la pierre angulaire. La pierre angulaire, il a montré une photo avec l'esplanade des mosquées, où il y avait le temple, hein, et avec la muraille, et il montrait où était placée la pierre angulaire. Parce que pierre angulaire, c'est aussi toujours une traduction, mais c'est la pierre, c'est la tête. C'est la tête, comment est-ce que c'est mis ? Est-ce que je l'ai écrit ? Enfin, Even, donc c'est la pierre Pina. C'est marrant ce nom. Je n'ai pas eu le temps de chercher, mais s'il y a un lien entre Pinacle et Pina, en hébreu. C'est une pierre qui n'est pas en bas, mais elle est en haut de la muraille. Et elle fait l'angle, et puis c'est de là qu'il y a toutes les proclamations aussi du Seigneur. Donc, c'est vraiment une image très, très importante. Et puis, il nous disait, cet enseignant, il disait, vous, les chrétiens, vous devriez savoir, parce qu'il n'est pas chrétien, l'enseignant, mais vous devez savoir qu'est-ce que c'est cette pierre angulaire, il sait très bien. Vous savez qu'elle est tombée, cette pierre, et qu'elle est dans un musée maintenant, mais qu'ils vont, je veux dire, on va la remettre, hein, parce que Jésus est la pierre angulaire. Voyez, donc c'est tout ça, et on voit vraiment que c'est une bénédiction. Alors moi, par ces quelques paroles que j'ai données, c'était un encouragement à poursuivre, à lire. C'est écrit tous les jours, prenez-le comme régulièrement. Il ne s'agit pas de faire une nouvelle loi, parce qu'on n'est pas sous la loi de ces préceptes. Et puis, je lis encore dans Josué 1, c'est écrit que ce livre de la loi, mais de la Torah, de la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà, c'était dans Josué, etc. On pourrait encore dire des choses, mais on ne va pas prolonger. Eh bien, que Dieu vous bénisse dans la lecture de cette parole. Parce que, disons quand même une chose, hein, c'est le roi qui a reçu cet ordre. Hein. Mais pendant des siècles et des millénaires, on ne pouvait pas avoir sa Bible à soi. C'est pour ça que c'est écrit aussi, la foi vient de ce qu'on entend, parce qu'elle était prêchée, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est toujours actuel, cette chose-là. Même aujourd'hui, il y a des pays où on n'a pas le droit d'avoir une Bible. Il y a d'autres pays où on a le droit, mais il n'y a pas de traduction. Ou bien il y a des traductions, mais on n'a pas l'argent. Donc il y a beaucoup de situations encore aujourd'hui où on ne peut pas dire à tout le monde « lis ta Bible chaque jour », on peut le dire ici. Mais suivant les pays où, on ne peut pas le dire. Donc c'est pour ça que la Bible n'est pas forcément... Elle est lue aussi, elle est entendue. Mais nous qui avons ce privilège, parce que c'est un privilège, alors faisons-le, continuons à le faire, hein, je sais que vous le faites. Hein. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Hein. Merci.